Nous voulons aussi ce matin plonger encore nos regards dans la parole de Dieu. Nous voulons un peu prolonger ce qui a été abordé, entre un des aspects, un point qui a été abordé le dimanche passé. Le point, c'est autour de la vie. Le thème de la fois passée, c'était « Je vis pour le ressusciter ». Et la question de la vie est quelque chose qui me fascine toujours à la période de Pâques, parce que c'est véritablement ça, n'est-ce pas, Pâques ? C'est vraiment la vie. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, par exemple. Et puis, on voit bien qu'il revient à la vie. La résurrection, c'est le fait de revenir à la vie. La vie. Et parfois, on est là en train de s'interroger, c'est quoi la vie? Et ce matin, je prends conscience à quel point nous sommes des miraculeux, en fait, quelque part. Des gens qui ont échappé à la mort en Jésus-Christ. À une mort terrible. À la mort de la condamnation, de l'enfer. Nous sommes des échappés à la mort. Et peut-être en réponse à cet acte d'amour de la part du Seigneur, cet acte que le Seigneur a posé pour nous épargner de la mort, peut-être que ce matin, ce serait intéressant. Je ne vais pas aborder la question de la vie parce que je vous avoue que moi-même, je n'ai pas encore des réponses. Donc, je ne vais pas vous faire part de simplement des choses sur lesquelles je réfléchis encore et encore. À mon avis, ça me prendra toute une vie de réfléchir sur la vie. On voit Salomon avec l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Il se pose des tas de questions et voilà. Enfin, on arrive à des conclusions, mais enfin, c'est toujours des conclusions partielles. Les choses sont beaucoup trop grandes pour notre petite intelligence. Mais ce matin, je vous invite peut-être à travers le message ce matin, peut-être à être des porteurs de la parole de vie. Et c'est un peu ça le titre de ma prédication. Porteurs de la parole de vie. Et pour cela, je vais me baser sur le texte de Philippiens. Je vous invite donc à le lire avec moi. Philippiens chapitre 2, du verset 2 au verset 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Portant la parole de vie, être porteur de la parole de vie. Peut-être avant, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce ce matin pour que notre visitation de ta parole ne soit pas une visite guidée d'où nous n'apprenons rien, qui ne laisse rien sur nous. Mais que la visite de ta parole ce matin soit quelque chose qui nous imprègne, qui nous pénètre, qui nous pousse encore dans une méditation plus profonde avec toi, dans une recherche encore plus, ce qui nous fasse grandir spirituellement, encore et encore. C'est vraiment du fond de mon cœur ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez la statue de la liberté? Qui a déjà visité la statue de la liberté? Personne? Moi non plus. Ça va, tout va bien. Moi, parmi les notions que j'utilise pour la liberté dans les cours que je donne à mes élèves, il y a la notion de la statue de la liberté. Il y a la notion, il y a la statue de la liberté. Voilà. Vous savez comment on l'appelle, son vrai nom? C'est la liberté éclairant le monde. C'est ça le nom de cette statue-là. C'est une dame de 46 mètres, qui porte une torche enflammée d'un côté et des fardes de l'autre, et qui a une espèce de diadème là, avec des pointes comme ça. Mais je ne vais pas expliquer tout ça, ça a du sens tout ça. Mais peut-être juste m'arrêter à la torche enflammée. Vous savez à quoi elle sert cette torche enflammée? Comme un phare. Elle est là, elle éclaire en fait l'entrée des navigateurs, des marins qui rentrent au port de New York. Donc c'est vraiment à l'entrée de New York. Et grâce à ça, on peut voir donc où se trouve le port, surtout la nuit quand il fait noir et qu'on ne voit pas, on ne sait pas s'orienter. Eh ben voilà, on voit à travers cette flamme, on voit donc la direction qu'il faut prendre pour aller vers le port. Sa lumière donc éclaire dans la nuit les navigateurs. Cette statue donc porte la lumière. Mais vous savez que derrière cette lumière, etc., il y a tout un message que la statue véhicule autour de la liberté. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin. Si vous voulez avoir une leçon sur ça, alors engagez-moi en privé, parce que je donne ça à mes élèves du premier degré. Donc, devenez mes élèves du premier degré, et puis je vais vous donner cours de ça. À l'instar de cette statue de la liberté, nous sommes nous aussi porteurs de la parole de vie. Derrière cette parole que nous portons, il y a tout un message profond du salut de l'humanité. Mais comme le temps est un peu serré, je ne vais pas commencer à rendre compte de ce que c'est que être porteur de la parole de vie. Je pense que ça sera trop long de le faire. Et puis, je n'ai pas envie de commencer à entrer dans des considérations théologiques qui ne servent absolument à rien. Mais par contre, nous pouvons être un peu plus pratiques et aborder ça d'une manière plus pratique par rapport à nos réalités. Et je vous propose peut-être que, pour pouvoir aller dans ce sens-là, peut-être juste aborder la question « Comment ?» Comment être porteur de la parole de vie ? Et en bout de course, nous découvrions ce que c'est, en fait. C'est quoi la parole de vie? Mais peut-être, comment être parole? Comment être porteur de la parole de vie? Et nous allons prendre ce texte comme appui pour répondre à la question. Comment être porteur de la parole de vie? D'après ce texte, il y a une seule réponse. Pour être porteur de la parole de vie, il faut travailler. C'est en travaillant qu'on devient porteur de la parole de vie. Alors, précision. On parle de travailler. Ici, l'idée de travailler, c'est l'idée non pas de travailler comme on travaillerait dans un bureau, hein, comme l'assistante en comptabilité fait le travail là-bas à compter les chiffres et les machins comme ça, à aller de tiroir en tiroir, de document en document. Il ne s'agit pas de ce travail-là. Il s'agit du travail plutôt du laboureur. Et vous savez que quand on doit planter quelque chose, il y a au moins deux. Mon doigt montre trois, mais en fait, il y en a deux. Il y a au moins deux phases importantes. Première phase, quand on veut labourer un terrain, on commence par quoi? Préparer le terrain, arracher les mauvaises herbes, arracher tout ce qui ne convient pas pour faciliter le travail. Et puis seulement, on passe au travail qui consiste à labourer. C'est ce genre de travail qu'il s'agit ici, quand on dit en travaillant. On travaille comme un laboureur qui fait ce double effort qui est à la fois d'arracher, de tout enlever, d'enlever tout ce qui ne va pas, et puis de mettre ce qui va à la place. Travailler. Donc porter la parole de vie est le fruit d'un travail, d'une activité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose qui arrive par l'effort. Et là, encore une fois, une notion toute chrétienne, une exhortation chrétienne, à savoir que, une fois sauvé, le chrétien n'est pas quelqu'un qui est appelé à croiser les bras et à ne rien faire. Il n'est pas appelé à se dire, voilà, cool, je n'ai plus rien, je suis bien, je me repose. Je suis sauvé, non? Quel repos céleste. Non, nous sommes sauvés et nous sommes appelés à travailler pour que notre salut soit de plus en plus effectif. Non pas que c'est par nos efforts que nous allons convaincre Dieu que nous sommes, nous méritons le salut. Vous savez très bien que le salut s'acquiert par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est pas par nos efforts, c'est par la foi. Mais Dieu nous appelle à nous activer sur le chemin de notre salut. De ne pas rester les bras croisés, mais de vivre, d'agir, de faire sa volonté, de chercher à lui plaire chaque jour et d'aller de l'avant, de grandir spirituellement. Il n'y a pas de standard. Hein. Je ne vais pas dire qu'il y a une taille comme ça, et puis une taille comme ça, et puis une taille comme ça. Je ne dis pas ça. Il y a un progrès. Chacun va un peu sous sa route, mais il y a du progrès. Le progrès doit se manifester à travers le changement de vie, de caractère, la victoire sur des tas de petites choses qui nous bloquent, qui nous enferment. La transformation intérieure, notre profondeur dans la façon d'aimer Dieu et de le servir. C'est ça les petits progrès dont je parle. C'est pas de savoir mieux prier parce que voilà, ça fait 40 ans qu'il est chrétien, maintenant, waouh, quand il ouvre la bouche, tout le monde ouvre ses yeux pour le regarder parler. Oh, quel beau discours! Non! Il s'agit pas de quelqu'un qui sait tellement bien étudier sa Bible que, à peine que tu as dit une phrase que lui dit tac, 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 Jérémie 31, ouais, c'est là, il dit ça. Non, c'est pas ça. C'est notre façon de vivre qui va manifester la réalité de ce qui nous sommes. Vous avez beau dire, par exemple, que vous êtes un homme marié, mais si votre comportement ne le montre pas, les gens vous disent, c'est pas vrai. Inversement, vous avez beau vous taire, dire que je ne suis pas marié, mais votre comportement, s'il témoigne que vous êtes marié, les gens vont dire, je suis marié. Ah oui, c'est pour ça que tu fais ceci. Ah oui, c'est pour ça que tu te prives de ça, ou bien que tu fais ceci ou cela, ou que tu dis ceci ou cela. Notre façon d'être manifeste qui nous sommes, et c'est le fruit d'un travail. Dans le christianisme, il n'y a pas à être assis et attendre que les choses se fassent. Je suis en train de parcourir plusieurs théologies sans vous dire quelque chose là-dessus. Ce n'est pas, on n'a pas à être, à ne rien faire et attendre que, on soit transformé par un coup de baguette magique. On n'est pas non plus à dire que nous avons à faire des choses pour mériter notre salut. Mais nous avons à agir pour témoigner de notre salut. Un peu l'idée de la foi par les œuvres, et non pas les œuvres qui témoignent de notre salut. Vous avez déjà vu en Afrique ces dames qui portent des fardeaux? Alors, elles, parfois, c'est des gros trucs comme ça, hein, mais elles marchent droit, et ça ne tombe pas. Essayez de le faire, vous. Essayez donc. Vous avez comme attention, ça va. Mais eux, elles, on pose et c'est terminé. Chou, elles avancent. Elles portent des fardeaux pesants, mais ça ne tombe pas. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Non. Elles se sont exercées. C'est à force de le faire, à force de le refaire, de faire. C'est donc qu'il y a eu une activité, il y a eu donc un travail. Alors, je reviens au travail. Ce texte nous dit donc que pour être porteur de la parole de vie, il faut travailler. Et je vais vous proposer deux façons de travailler, que le texte nous conduit à découvrir, hein, n'est-ce pas? Travailler de deux manières. Le premier verset, donc c'est le verset 12, tu peux le mettre. Il ne veut pas. Voilà. Première manière de travailler, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre, c'est la même chose que travailler. Hein. Ok? Travailler à notre salut. Travailler dans la conduite de notre salut. Manifester ce travail et faire des progrès dans notre marche chrétienne avec crainte et tremblement. Vous remarquerez que la motivation de l'apôtre au travail, qu'est-ce qui le motive à travailler? Qu'est-ce qui le motive à faire un travail sur lui-même pour avancer, pour progresser? Qu'est-ce qui le motive? C'est l'obéissance. Comme vous avez toujours obéi, alors, mettez en œuvre. L'obéissance est quelque chose qui doit être la motivation de ce travail que nous faisons sur nous-mêmes. Mais de quelle obéissance il s'agit? Au verset 8, qu'on ne va pas lire, vous connaissez l'exemple de Jésus-Christ. Ayez en vous le modèle, non, c'est le verset 5, ça, pardon. Prenez en vous le modèle de Jésus-Christ, qui était donc Dieu, mais qui n'a pas considéré comme un poids, comme l'égal de Dieu, mais qui s'est livré, qui s'est donné, et qui s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Jésus a désiré obéir à Dieu. C'était une obéissance volontaire. Il s'est humilié volontairement. C'est pas quelque chose qu'il a fait parce que on l'a contraint, mais c'est quelque chose qu'il a fait parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Parce qu'il savait que ça la faisait plaisir à son Père. Il s'agit de cela ici dans ce texte. Il s'agit donc de travailler avec un esprit d'obéissance. En étant motivé par l'obéissance, c'est-à-dire par le désir de faire plaisir à Dieu, de se plier à la volonté de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui va être difficile, mais c'est la réalité. L'apôtre ajoute que ce travail ne doit pas se faire nécessairement sans sa présence. Que je sois présent ou que je sois absent, vous devez travailler sur vous-même. Donc, c'est un travail qui repose totalement sur notre responsabilité personnelle. Ce n'est pas un travail qui doit être coaché, supervisé, contrôlé, inspecté par quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui devons être conscients de ce que nous devons faire et qui devons nous engager dans cette tâche. C'est un travail qui se fait sans contrainte extérieure. Nous sommes appelés à travailler avec crainte. Que veut dire crainte dans ce texte? Travailler avec crainte, c'est travailler avec la conscience des dangers auxquels nous pouvons être exposés. L'ouvrier qui va travailler dans de l'amiante va pas aller dans de l'amiante et va commencer à casser tout ça en connaissant tous les dangers que représente l'amiante. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir l'équipement adéquat pour ne pas respirer la poudre de cette amiante qui est cancérigène. Travailler avec crainte, c'est être conscient qu'il y a des dangers dans notre engagement de chrétien. Qu'il y a des dangers qui nous guettent autour de nous. Et que ces dangers-là, nous devons en prendre conscience. Nous devons en prendre conscience pour les anticiper, pour les éviter. Travailler avec crainte. Savoir que ce que nous faisons est quelque chose qui peut nous mettre en danger et veiller à ce que ce danger soit évité. Nous sommes aussi appelés à travailler avec tremblement, c'est-à-dire être conscient de notre propre faiblesse pour faire face aux différents problèmes, aux différents dangers qui se présentent à nous. L'apôtre Paul va dire aux jeunes, fouillez, fouillez donc les tentations de la jeunesse. Pourquoi? C'est évident. Parce que les jeunes doivent être conscients qu'ils sont faibles. Qu'on peut être faible. C'est un double écueil, n'est-ce pas? Une double manière de tenir compte de la façon dont on doit travailler devant Dieu. Je vais aborder ma vie chrétienne. Je vais vivre ma vie chrétienne. Je vais faire tous les efforts qu'il faut dans ma marche du chrétien en sachant que je dois repérer les dangers. Et heureusement, la parole de Dieu me dit les différents dangers. La parole de Dieu me dit, faites attention à ceci, faites attention à cela, faites attention à ceci, attention à cela. Nous savons tous ces dangers-là. La parole de Dieu nous le prévient. Et je dois être conscient de ça, conscient de ces dangers-là. Et je dois tenir compte de ces dangers-là dans ma marche chrétienne. Un exemple simple. Si la parole de Dieu me recommande d'éviter, par exemple, je dis, je ne sais pas ce qui est vraiment écrit dans la parole, je pense à quelque chose de précis, mais la parole m'invite à ne pas, par exemple, fréquenter un milieu que j'aime particulièrement, par exemple un milieu des gens qui courent après les femmes, qui vivent dans le désordre. Et voilà, je sais que si je vais là-bas, il y a des dangers qui me menacent, des dangers auxquels je suis exposé. J'ai le choix. Je peux dire, je suis un kiki costaud. J'y allais là. J'ai dit, après tout, et qu'est-ce que mais pourquoi est-ce que je m'empêcherais d'aller là-bas? Mais je peux aussi être sage et dire, s'il y a un danger là-bas, j'anticipe cela. Si j'ai des amis qui sont en train, qui risquent de me conduire vers des choses qui sont un danger pour moi, eh ben, j'anticipe ou j'arrête cette relation amicale-là parce que ça me met en danger. Et en même temps aussi, avec tremblement, parce que je dois être conscient aussi que je suis faible. Nous ne sommes pas si forts que ça. Les choses peuvent vite nous dépasser. On peut vite être pris dans une tourmente et après ne plus savoir comment contrôler, arrêter tout ça. Alors parfois, c'est mieux de pouvoir éviter cela. Mais ce texte va plus loin. Et c'est pour ça que c'est un texte, j'aime bien comment il s'enchaîne lui-même. Ce texte nous dit que nous avons besoin de dépendre de Dieu. Nous avons besoin que ce soit Dieu qui nous conduise. Nous avons besoin chaque jour de chercher à trouver nos forces en lui. C'est ça la portée du verset 15. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Le verset 13, pardon. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui peut nous rendre capables de surmonter et de se battre. Notre tâche, donc, est de veiller à ce que Dieu ne soit pas loin dans ce que nous faisons. Que tous ceux qui nous entourent puissent être sous la supervision de Dieu, afin que si nous tombons, si nous sommes exposés au danger, Dieu nous donnera les moyens de pouvoir sortir des dangers. Dieu nous donnera la sagesse pour éviter ces écueils, pour anticiper les dangers. Parfois, nous ne sommes pas assez sages, nous-mêmes, pour savoir quelles solutions il faut envisager face aux différents dangers qui nous entourent. Mais lorsque Dieu est avec nous, lorsqu'il nous aide, lorsqu'il nous donne sa sagesse par le Saint-Esprit, alors nous sommes en mesure d'anticiper et de savoir correctement le faire avec l'aide du Seigneur. C'est lui, notre Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Travaillons donc sur nous-mêmes, en sachant, en nous mettant en même temps à la disposition de Dieu pour qu'il nous mène selon sa volonté. Là serait le premier élément qui nous aiderait à aller de l'avant. Deuxième élément, travailler sans murmure et hésitation. Vous voyez, deux manières. Nous avons crainte et tremblement. Et puis, au verset 14, faites tout sans murmure ni hésitation. Une deuxième manière de travailler sur nous-mêmes et véritablement en décalage complètement avec la manière dont le monde travaille. Vous avez remarqué que les gens travaillent en râlant. Les gens travaillent en se lamentant, en se plaignant, en critiquant les autres, en contestant, en discutant. Aujourd'hui, nous discutons tout le temps les ordres. On reçoit un ordre d'un patron. On est tout le temps en train de discuter. Nous faisons non pas ce qu'on nous demande de faire, mais nous faisons ce qui nous convient, nous, ce qui nous arrange, ce que nous avons envie. Nous murmurons tout le temps. Nous murmurons parfois pour des raisons qui ne sont pas valables, juste pour le principe de murmurer. Travailler avec murmure et hésitation. Hésitation ici, ça veut dire trop de raisonnement. Je suis tout le temps en train de raisonner. C'est travailler avec murmure et hésitation, c'est travailler avec un esprit négatif. C'est travailler sans sourire, sans être dans la joie. C'est travailler sans patience ni persévérance. Finalement, c'est travailler sans un résultat satisfaisant, puisque le travail qu'on fait, même si on réussit, mais on a tellement râlé, on est tellement fâché que c'est un travail qui ne donne même pas la joie. Or, Dieu veut que nous fassions tout ce que nous devons faire, que nous le fassions de bon cœur. Que nous le fassions comme c'était un cadeau que nous offrons à Dieu. Comme un acte de notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que quelque part, lorsque je râle contre quelqu'un dans l'entreprise où je suis engagé et que je me plains chez le patron, le patron sera peut-être pas content de la personne contre laquelle je râle, mais le patron sera inquiet pour son entreprise. Parce que ça veut dire quelque part que pour son entreprise, celui qui râle ou ces deux personnes en conflit vont ralentir la productivité, vont créer un mauvais climat de travail et qui vont faire en sorte que le travail va être tellement mauvais que finalement la rentabilité espérée ne va pas venir. Le patron va être inquiet. Il en est de même aussi dans l'Église. Si nous râlons même contre les uns, contre les autres, si nous sommes fâchés les uns avec les autres, mais c'est le grand patron qui est en train de se demander « Oui, je vais où là-bas ? Qu'est-ce que je vais retirer comme fruit dans cette entreprise locale qu'est l'église d'Otigny ? Qu'est-ce que je vais retirer comme fruit ?» Parce que l'ambiance va être délétère, il y aura beaucoup de conflits, beaucoup de gens seront découragés, certains verront ces problèmes, ils vont se dire « Oui, moi, je ne m'engage pas. » Et donc le travail va être négatif. Et quelque part, nous les hommes, on peut s'en sortir. Hein. Je peux me déculpabiliser, dire « Oh, c'est pas moi qui ai commencé. Hein. » C'est pas moi. Hein. Je peux dire aussi « Bah, moi je fais mon taf. Hein. » Oh pardon, moi je fais mon travail. Ça c'est à force de parler avec les jeunes. Hein. On commence à dire les mots comme les jeunes. Hein. Moi je fais mon travail. Et quoi ? C'est tout. Moi je fais ma part. C'est tout. J'ai rien à voir avec tout ça. Mais nous oublions le grand patron, notre Dieu. Lui au ciel, il regarde tout ça. Et c'est son entreprise, c'est son église. Travailler sans murmure ni hésitation. Voilà comment Dieu veut que nous puissions aborder nos vies. Alors, ces deux travails, ou ces deux manières de travailler, travailler avec contrainte, avec crainte et tremblement, et travailler sans murmure ni hésitation, quel est le résultat d'une telle façon de travailler? Eh bien, le résultat, c'est que c'est un fameux témoignage de vie. C'est une vie qui parle de Jésus, qui parle de son exemple, une vie qui reflète Jésus. Nous devenons donc des luminaires. C'est ainsi que c'est écrit, verset 16. C'est très très bien. Verset 15. Bouge pas. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous comprenez pourquoi j'ai pensé à la statue de liberté? Nous devenons des petites lumières qui éclairent dans notre monde des ténèbres. Nous devenons des luminaires qui emmènent de la lumière comme des petits phares pour conduire à la lumière. Vous savez que les luminaires, le flambeau, ici le texte qui parle des flambeaux, fait allusion aux luminaires. Vous savez, les luminaires, c'est l'idée des astres, hein, les astres qui subissent le reflet de la lumière du soleil. Et donc, ils brillent par l'effet du soleil. Et c'est ce que nous sommes. Nous brillons, non pas de notre lumière, mais de la lumière du Christ, le soleil levant, le soleil de justice. C'est lui qui nous éclaire et par le reflet de sa lumière, nous brillons nous aussi. Et nos petites lumières donc signalent la lumière, le soleil, le Seigneur Jésus. Nous sommes donc un témoignage vivant lorsque nous travaillons de cette façon-là sur nous. Nous devenons des véritables témoignages. Et ce résultat merveilleux fait de nous des porteurs de la parole de vie. C'est quoi la parole de vie? La parole de vie, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est la parole qui nous a engendrés. C'est la parole qui nous a donné la vie. C'est la parole qui a fait que nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus enfants de Dieu. La sémence incorruptible. La sémence de vie que le Seigneur a mis. Nous devenons donc des porteurs de la parole de vie. Nous devenons donc des porteurs de Christ, des porteurs de Christ dans nos cœurs, mais aussi dans le témoignage de notre vie, par la qualité de notre façon de travailler sur nous-mêmes. Je fais quoi? Il y a un petit bruit de... Nous devenons donc des porteurs de Christ à travers notre témoignage de vie. Nous présentons au monde, un peu comme la statue de la liberté qui présente la lumière pour montrer le chemin. Nous présentons donc au monde le Seigneur Jésus-Christ à travers notre façon de vivre, à travers notre corps, notre présence au monde. Et je voudrais peut-être juste montrer cela à travers l'autre propos de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 10, qui dit à peu près la même idée, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous portons la mort et la vie de Jésus dans notre corps lorsque nous travaillons de cette façon-là. Lorsque nous travaillons à ce que le témoignage chrétien soit un témoignage probant. Et c'est important, vous savez, parce que ce que nous devenons, c'est cela que nous allons présenter, c'est comme ça que nous allons présenter devant Dieu. Nos progrès, le progrès de notre propre marche chrétienne avec Dieu, c'est ce que nous serons devant Dieu au moment de l'évaluation. Au moment où il s'agira pour nous d'être évalués devant Dieu. C'est ça que l'apôtre dit lorsqu'il dit, tu peux revenir sur le texte, au verset 16 là, lorsqu'il dit, comme ça je pourrais me glorifier au jour du Christ. Il y a un résultat que le Seigneur attend de nous. Bien sûr, ce n'est pas un résultat qu'on va obtenir tout seul. Je viens de le rappeler, c'est avec l'aide du Seigneur. Mais il y a un résultat pour une récompense au jour du Christ. Et quelque part, si c'était le vœu de l'apôtre Paul, parce que c'est comme ça que l'apôtre Paul voulait que les choses se fassent, non pas pour lui, mais pour le Seigneur, je pense que ça peut être aussi le vœu de n'importe qui d'autre. Et nous souhaitons vraiment qu'il en soit ainsi. Je termine. Petite conclusion. Nous sommes des porteurs de la parole de vie. Et comment pouvoir porter cette parole de vie en travaillant, c'est-à-dire en étant actif, en étant concerné, en étant dynamique, en étant en activité sur nous-mêmes, en travaillant de deux manières, avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec conscience des dangers, mais aussi avec conscience de notre faiblesse pour faire face à ces dangers-là. C'est important. Ne soyons pas des pharisiens. Parce que les pharisiens sont orgueilleux. Ils se disent, waouh, je peux tout. Puisque la loi me dit ceci, je l'applique, c'est bon. Mais soyons plutôt humbles. Comptons sur la grâce de Dieu. C'est ça que le texte dit par la suite. C'est Dieu qui peut produire le vouloir et le faire en nous. Deuxième manière de travailler, sans murmure, ni hésitation, sans se plaindre, sans se lamenter, sans y mettre de notre propre intelligence, compter sur les ordres de Dieu comme Dieu les demande, en faisant tout pour que ça soit pour sa gloire. Et de cette manière-là, nous devenons des enfants de Dieu, différents des gens du monde, des porteurs de lumière, des gens qui parlent de Jésus à travers leur vie. Amen.